3, Élise. Je n'ai jamais mis autant de temps à remonter l'allée qui mène à mon immeuble. J'ai bien envisagé de ne pas rentrer tout de suite, de prolonger le déni, de barboter encore un peu dans l'avant, mais je dois sortir Édouard. Mon adorable fils a laissé un vide, mais aussi son chien. Édouard pèse 14 kilos, dont 13 d'intestin. À l'instar des chats, il nous fait chaque jour une offrande et ce n'est pas un oiseau. J'ai insisté pour que Thomas emmène son chien. « Mon chéri, un animal a besoin de son maître. Il est constamment avec toi depuis 6 ans. Tu ne peux pas l'abandonner. Je travaille toute la journée, il sera seul, il va te manquer. Regarde-moi ses petits yeux pleins d'amour. Allez, sois raisonnable. Il va se laisser mourir de faim. Tu l'auras sur la conscience. Insensible, maître indigne, assassin. » Rien n'y a fait. Édouard est désormais mon unique compagnie. Je monte par l'escalier. L'ascenseur est trop rapide. Édouard n'est pas derrière la porte quand je l'ouvre. C'est pourtant son habitude. Dans une autre vie, il était boudin de porte. L'entrée est vide, le tapis propre, la cuisine silencieuse. Personne dans le salon. Je commence à m'inquiéter lorsqu'un ronflement me fournit un indice. Sur la pointe des pieds, je me dirige vers la chambre de Thomas. Les murs portent encore les stigmates de l'adolescence. À côté d'une affiche d'un concert de rock trônent quelques photos carrées, une esquisse de graffiti jamais terminée et des punaises esselées. L'étagère blanche brandit fièrement des médailles poussiéreuses, dernier témoin des exploits de mon fils sur les agrès de gymnastique. Sa première guitare gît au sol. Dans le placard ouvert reposent 2 t-shirts trop petits, un jean trop déchiré, des chaussettes trop sales et un pull trop pas à son goût, tricoté par mes soins après son premier chagrin d'amour. À la place du lit, un trou. À la place du bureau, un trou. À la place de mon cœur, un trou. À la place du fauteuil, Édouard. Il me regarde d'un œil, l'autre scrute le plafond. Édouard avait 4 ans quand nous l'avons adopté. C'était le cadeau d'anniversaire de Thomas, il ne voulait rien d'autre. Lorsque j'ai compris que ce n'était pas une lubie, j'ai accepté, à condition qu'il s'en occupe. Édouard était le chien le plus laid du refuge. Un pelage blanc à reflets jaunes, des oreilles qui captaient toutes les chaînes, des dents en quinconce et les yeux qui se faisaient la gueule. Thomas a eu le coup de foudre.
« Maman, on peut pas prendre ce chien, c'est trop la honte !»
a gémi Charline.
« C'est celui-là que je veux !»
a rétorqué Thomas. Ma fille a tenté de l'orienter vers un labrador, un bulldog français ou un petit croisé adorable. Mais Thomas n'en démordait pas et il avait une raison imparable.
Il me fait penser à papy.
Mon père était décédé 3 mois auparavant. Thomas l'adorait. Il était passionné d'astronomie et de nature. Il emmenait souvent les enfants à la découverte des arbres, des insectes ou des constellations. Il est mort le jour de ses 74 ans. Il s'appelait Édouard. Le chien doit prendre mon regard pour un encouragement. Il se redresse et se rue vers moi en patinant sur le parquet, la langue flottant au vent comme un drapeau. Je n'ai pas le temps de me protéger, il se propulse sur ses pattes arrière, se cabre et ses griffes lacèrent mes mollets.
« Merde, Édouard !»
Je crie, il s'aplatit au sol. Le bénévole du refuge nous avait prévenu le jour de l'adoption. Édouard avait très certainement souffert de mauvais traitements. Il ne supportait pas que nous élevions la voix et sursautait au moindre bruit, même quand il émanait de son propre corps. Une fois, il a uriné de peur en me voyant balayer. À force d'amour, il a repris confiance en l'humain, mais les vieux traumatismes ne sont jamais bien loin. Je me baisse et le gratifie d'une légère caresse sur la tête. Il roule sur le dos et m'offre son ventre rose. Entre ses pattes, sa queue remue. Autour de moi, le vide de la chambre me rappelle la situation. Je me relève et quitte la pièce, laissant Édouard seul avec ses espoirs d'affection. 4. Lily.
Je ne sais pas où tu es. Ils t'ont arraché de mon ventre, t'ont approché de mon visage à peine quelques secondes avant de t'emmener. Ta grand-mère, ma mère, m'a souvent raconté notre rencontre. Elle m'avait immédiatement reconnue. J'étais sa fille, l'amour l'avait percutée. J'étais sûre de ressentir la même chose. Je ne t'ai pas reconnue. J'ai été soulagée de t'entendre crier. J'ai remarqué tes cheveux, j'ai vu les bulles sortir de ta bouche. J'ai songé que tu avais un long buste et une voix puissante. Mais je n'ai pas fait le rapprochement entre ce petit être et le bébé qui faisait grossir mon ventre et mon cœur. Je suis dans une pièce exiguë, aux soins intensifs. Ton papa est avec toi, Je me sens seule pour la première fois depuis 7 mois. Ça n'était pas censé se passer comme ça. J'avais tant joué la scène dans ma tête. J'ai une peur panique de l'accouchement depuis le jour où, je devais avoir 8 ans, j'ai feuilleté un fascicule sur la grossesse trouvée dans la chambre de ma mère. Elle était alors enceinte de mon frère, tonton Valentin. La dernière page affichait une photo terrifiante, inoubliable, de quelque chose qui ressemblait fort à la tête d'un bébé sortant de l'endroit par où on fait pipi. J'ai posé des questions à ta grand-mère. Elle les a balayées d'une caresse sur ma joue. Le livret a ensuite disparu, offrant l'opportunité à mon imagination d'ajouter de l'horreur à l'image avant de la graver dans ma mémoire. J'ai décidé très jeune de ne pas avoir d'enfant. Ou alors il faudrait qu'il sorte d'un autre par où on fait pipi que le mien. Quand j'ai rencontré ton père, le désir de créer un être qui ressemblerait à cet homme que j'aime tant a enseveli mes peurs. Tout au long de la grossesse, j'ai pratiqué la pensée positive pour faire plier l'angoisse. Tu naîtrais un jour de soleil radieux, les contractions se contenteraient de me chatouiller, la sage-femme se déplacerait en dansant, ton papa me déclamerait son amour, il ne ferait ni chaud ni froid, la radio diffuserait Radiohead, je pousserais 2 ou 3 fois dans le pire des cas, dans le meilleur, je n'aurais qu'à éternuer. Tu arriverais en pleine forme, on te poserait sur moi, tu accrocherais ton regard au mien, des larmes dévaleraient mes joues sans déformer mon visage, ton père nous embrasserait, et voilà, on serait une famille. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Tu n'étais pas censée naître avant d'être prête. Je n'étais pas censée être mère avant de le devenir.